L'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Josué, car c'est lui qui sauvera son peuple du péché. » Car oui, Jésus et Josué, c'est en fait le même nom qui a été changé à cause de certaines voyelles pour juste qu'on mélange pas Jésus avec n'importe qui, mais c'est bien le même mot. Et c'est ainsi que le sauveur du monde fut nommé d'après le successeur de Moïse qui fit entrer le peuple dans son héritage dans Canaan. Et c'est logique en fait que le Messie s'appelle comme cela, d'une part parce que Josué veut dire « Dieu sauve ». Jusque-là, on est bon. Mais aussi parce que Ésaïe avait dit que le Messie serait un nouveau Josué. Un nouveau Josué qui distribuera au peuple son patrimoine. C'est dans Ésaïe 49 que vous trouvez cette prophétie. Ainsi, ce qui se passe à l'époque de Josué, le premier Josué, l'entrée dans l'héritage promis par Dieu, est exactement parallèle à ce que nous vivons aujourd'hui en Jésus, l'entrée dans l'héritage promis par Dieu. Et j'espère que cette série qu'on va faire toute la semaine sur Josué va nous permettre de mieux comprendre le livre de Josué dans lequel il y a, j'imagine à la lecture, vous avez remarqué quelques passages un petit peu chauds, mais aussi de mieux comprendre, surtout de mieux comprendre l'action de la grâce de Dieu en nous, par Jésus, pour que nous puissions posséder notre héritage. Alors cette semaine, nous allons suivre un parcours qui va nous emmener de Sittim à Sichem, et surtout qui nous aidera à comprendre les éléments clés d'une vie victorieuse avec Dieu, d'une vie où on entre pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. Et nous commençons donc à l'est du Jourdain, avec ce chapitre 1 et ce conseil, ce premier conseil pour posséder l'héritage, pour vivre pleinement ce que Dieu nous donne, il faut se laisser rassurer par Dieu. Josué 1, donc, se laisser rassurer par Dieu. Tous les messages vont commencer par une question. Donc, la question de ce matin est la suivante. Quelles sont vos peurs face aux tâches que Dieu vous confie, face aux choses qui sont devant vous? Je suis coordinatrice régionale des GBU en Île-de-France depuis 10 ans, et à chaque fois que je m'approche d'un étudiant ou d'une étudiante pour lui proposer de devenir responsable de groupe ou d'être délégué régional ou de jouer dans Marque l'expérience ou de présider un temps de louange, à chaque fois je peux lire de la peur dans les yeux de mon interlocuteur. Parfois c'est furtif, parfois c'est intense, j'ai l'impression que la personne va s'évanouir, mais dans tous les cas il y a ce truc, oh là là, pourquoi elle me demande ça, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Comment faire face à une responsabilité dans le royaume de Dieu quand on sait, parce qu'on se connaît et qu'on est honnête avec nous-mêmes, qu'on n'est pas à la hauteur? Parce que clairement, on n'est pas à la hauteur. Et si on vient vous voir, c'est pas parce qu'on pense que vous êtes à la hauteur. Nous, les équipes EGBU, on n'est pas stupides. On sait très bien que ce qu'on propose aux étudiants qui vont s'engager dans les EGBU chaque année, c'est un défi. Comme la vie chrétienne. En fait, comment est-ce que je vais entrer dans la vie chrétienne, dans la mission, dans l'héritage que Dieu me propose, alors que j'ai peur de ce qui pourrait se passer de travers, alors que j'ai peur de l'échec, alors que j'ai peur de perdre quelque chose? Vous pouvez chacun ajouter ce qui vous fait peur dans la prise de responsabilité, dans l'engagement radical avec Dieu. Je ne sais pas quel est le défi devant vous en ce moment. Peut-être une lutte personnelle dans votre vie avec Dieu, un besoin de réconciliation avec quelqu'un, une responsabilité que vous avez acceptée parce que vous savez pas dire non. Mais j'imagine qu'il y a quelque chose, peut-être même plusieurs choses devant vous qui est un sujet de peur, d'inquiétude. Quelles sont vos peurs face aux tâches que Dieu vous confie? On va lire Josué 1 et vous allez être rassurés par Dieu. Je vais demander à Elias de venir lire le texte que vous trouvez donc au premier chapitre de Josué, et il va lire dans la version Summer.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban, et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain, que voici, pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous ce que vous a ordonné Moïse, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné ce pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné, au-delà du Jourdain. Mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille, en tête de vos frères, et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient, et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. »
Merci beaucoup, Elias. Alors, on commence par l'observation, parce que quand même, on est au GBU. Ce texte est organisé en 4 discours. Vous l'avez peut-être remarqué à la lecture. Verset 1 à 9, vous avez le discours de l'Éternel à Josué. Puis, verset 10 à 11, vous avez le discours de Josué à tous les responsables du peuple. Puis, 12 à 15, vous avez un discours spécifique de Josué aux responsables des tribus de Ruben, Gad et la moitié de Manassé. C'est les 2 tribus ennemies qui avaient un statut spécial parce qu'elles avaient demandé à Moïse de ne pas s'installer en Canaan, mais de rester de ce côté-ci du Jourdain. Et versets 16 à 18, on a la réponse de ces tribus à Josué. Et au début de notre texte, on le sait parce que Dieu lui dit souvent « ne crains pas », Josué a peur. Et il a bien raison d'avoir peur. Josué a raison d'avoir peur, c'est la première partie. Alors, qui est Josué ? Josué, c'est le fils de Noun. Et là, tout de suite, ça vous aide à le situer. En fait, il s'appelait Osée, de son vrai prénom, des prénoms que ses parents lui ont donnés. Mais Moïse change son nom, en nombre 13. On ne sait pas pourquoi Moïse a fait ça, peut-être... C'était conscient et prophétique. Peut-être qu'il y avait trop d'Osée dans son équipe et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. En tout cas, Osée est devenu Josué. Et c'est sous ce nom-là que nous le retrouvons comme l'assistant privilégié de Moïse depuis le début de l'exode du peuple hors de l'Égypte jusqu'à notre période. Après le passage de la mer Rouge, le peuple livrera sa première guerre contre les Amalécites en exode 17, et c'est Josué qui dirige les opérations militaires, et à partir de là, il sera le général pour toutes les autres campagnes militaires. Et c'est donc tout à fait logique qu'il fasse partie des 12 espions envoyés en Canaan en nombre 14. Mais il n'est pas uniquement l'assistant militaire de Moïse, mais il est aussi et surtout l'assistant spirituel. Il accompagne Moïse au Sinaï dans la nuée pendant les 40 jours et les 40 nuits où Dieu donne sa loi en Exode 24. Il se tenait dans l'attente de la rencontre quand Dieu s'entretenait avec Moïse en Exode 33. Moïse fait des allers-retours entre la tente et l'extérieur pour parler aux gens, mais Josué lui restait tout le temps dans la tente. Le texte nous dit en Exode 33, le jeune Josué, il était jeune à l'époque, fils de Noun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Tout cela, c'est ce qu'on sait de Josué dans Exode et dans les Nombres. Qu'en est-il du livre qui porte son nom ? Au début du livre de Josué, ça commence par ça, Moïse est mort. Et les Israélites sont à l'est du Jourdain, donc du mauvais côté. en face du pays promis, mais pas dans le pays promis. Et Josué, à cette occasion, sort de l'ombre. Et une question se pose, va-t-il être à la hauteur de Moïse ? Qui peut passer après Moïse ? Et on comprend à la lecture pourquoi est-ce que Josué a besoin d'être rassuré. Il y a en effet une série de difficultés qui se dressent devant lui. La première, c'est que donc Josué passe après Moïse. Moïse, le serviteur, le prophète, le libérateur, celui qui parlait avec Dieu face à face. Celui qui a reçu la loi, celui qui intercédait pour le peuple et que Dieu écoutait. Moïse, la star. Comment être à la hauteur de Moïse ? La star est morte. Pire que ça, la star a échoué. Elle devait mener le peuple jusqu'à la terre promise, mais comme Moïse a été impatient, Dieu l'a puni en le refusant le droit de mener la tâche jusqu'au bout. Si Moïse, le Moïse, a échoué, comment Josué, le petit assistant, pourrait-il réussir ? Première difficulté, il passe après Moïse. Deuxième difficulté, soyons réalistes, sa mission est quasiment impossible. Traverser le Jourdain avec tout un peuple, sans bateau. Voilà. Faire la guerre à de nombreux royaumes sur un large territoire et faire la guerre à des royaumes, Josué n'est pas stupide, qui vont sans doute faire alliance entre eux dès que les Israélites poseront un orteil sur Canaan. Comment être à la hauteur ? Troisième difficulté, comme si c'était pas assez, Josué a sous ses ordres un peuple à la nuque raide. C'est une expression biblique qui est beaucoup reprise dans le Saint-Testament, qui veut dire un peuple têtu, un peuple qui ne se soumet pas, un peuple qui désobéit les règles et qui ne met pas son masque alors qu'on est dans une salle fermée. Du vivant de Moïse, le peuple n'a cessé de se plaindre et de le critiquer, alors que Moïse les avait sortis d'Égypte et d'esclavage. Quelle dose de critique et de rébellion réserve-t-il pour Josué qui, jusque-là, à part juste être à côté de Moïse, n'a pas fait grand-chose ? Comment être à la hauteur ? Pour toutes ces raisons, Josué a peur. On le sait parce que l'Éternel n'arrête pas de lui dire de prendre courage et de tenir bon, de ne pas se laisser effrayer. On ne dit pas à quelqu'un « n'aie pas peur s'il n'a pas peur hein, », on le sait tous. Josué a peur et il a de bonnes raisons d'avoir peur. Il y a de bonnes raisons pour que certaines choses que nous devons faire nous effraie, semble nous dépasser totalement. La peur de Josué, elle est légitime. Notre peur aussi, votre peur aussi est légitime. Alors comment Dieu le rassure ? Comment Dieu nous rassure ? D'abord en lui disant qu'il lui sera fidèle. Dieu sera fidèle à Josué. En lui disant d'abord... Pardon, je vais trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, qu'il sera avec lui, pardon, comme avec Moïse. Vous avez cette phrase au verset 5. Dans son discours, le discours de Dieu à Moïse, verset 2 à 9, Dieu ne cesse de faire référence à Moïse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on lit le texte, on entend Moïse, voilà. On parle de Moïse 9 fois dans le premier chapitre. C'est pas pour mettre la pression à Josué, mais c'est pour l'encourager. Regarde ce que Moïse a accompli avec moi à ses côtés. Je serai à tes côtés exactement de la même manière que j'ai été avec lui. En présentant Moïse comme son serviteur, Dieu insiste sur la relation personnelle que Moïse avait avec lui. Et c'est cette relation que l'Éternel va aussi avoir avec Josué. Tout ce que Moïse avait, Josué va avoir pareil. Dieu parle directement avec Josué comme il parlait directement avec Moïse. Il lui dit quel est son projet comme il parlait de ses projets à Moïse. Parce que si Moïse est mort, le Dieu de Moïse, lui, n'est pas mort. Et c'est l'Éternel qui est la clé de la réussite de Moïse. Pas ses capacités de leadership, pas son charisme, pas son enfance exceptionnelle. Moïse a accompli de grandes choses parce que le grand Dieu était avec lui. Et ce grand Dieu, il se trouve qu'il sera aussi avec Jésus. Amen. Dans le discours de Josué, aux deux tribus ennemies, donc les versets 12 à 15, on voit que Josué a bien compris ce que Dieu voulait lui dire. Il ne pèche pas par orgueil, mais il comprend que sa légitimité est avant tout liée au fait qu'il succède à Moïse. Et lui-même cite beaucoup Moïse. Verset 13, rappelez-vous ce qu'a ordonné Moïse. Verset 14, vos femmes et vos enfants, vos troupeaux peuvent rester dans le pays que Moïse vous a donné. Verset 15, vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée. Josué sait que c'est en tant qu'assistant de Moïse qu'il reçoit le privilège d'être le chef. Cela le garde à sa place, mais surtout cela le rassure. Dieu sera bon et fidèle avec lui, comme il a été bon et fidèle avec Moïse. Alors nous ne sommes pas les successeurs de Moïse. Dieu ne s'est pas donc engagé envers nous à nous traiter comme Moïse. Vraisemblablement, il n'y aura pas de traversée miraculeuse de la mer Rouge pour nous. Mais on a mieux que Moïse. Tout le Nouveau Testament enseigne que nous sommes devant Dieu comme Jésus, comme Christ. Nous sommes les successeurs de Jésus. Dieu s'engage à nous regarder comme il a regardé Jésus. Comme Jésus est le Fils de Dieu et qu'il s'est fait notre frère, alors nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 17, verset 22, dans la prière que Jésus fait pour ses disciples et pour nous. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes, comme Jésus. » Dieu sera avec nous, comme il l'a été avec Jésus. N'ayons pas peur. Deuxième chose, ouais, il me manque des titres, je suis désolée, j'ai changé de logiciel et ça ne marche plus. Deuxième chose, Dieu va tenir ses promesses. Vous avez le titre sur le livret. Plusieurs fois dans le chapitre, Dieu rappelle qu'il a promis le pays et que ce pays est un don qu'il leur fait. Ça fixe les yeux de Josué sur le fait que c'est Dieu le chef de la conquête. C'est son projet, c'est lui qui donne. Moïse a échoué, certes, Moïse est mort, certes, mais les promesses de Dieu tiennent toujours. L'Éternel a promis que le peuple s'installerait dans un pays dont ils seraient les propriétaires. Il a dit qu'il l'a promis par serment, il s'est engagé par une alliance, et quand Dieu parle, les choses sont. Ce qui a été promis va obligatoirement arriver, même si Josué ne fait pas tout parfaitement. Parce que ce n'est pas le projet de Josué, c'est le projet de Dieu. Et tout ce que Dieu dit arrive. J'ai donné ma vie à Dieu, il y a plus de 20 ans maintenant, et je lui ai demandé d'en être le propriétaire, le juge, le directeur. Ma vie chrétienne, ma vie familiale, ma lutte contre le péché, mon travail, c'est devenu à ce moment-là le projet de Dieu. Si vous êtes chrétien, votre vie, votre croissance, vos études, votre service chrétien, votre famille, vos amis, c'est le projet de Dieu. Non pas que vous n'ayez rien à faire, Josué a des choses à faire, mais Dieu s'est engagé, par alliance, en Christ, à vous conduire sur le chemin de la vie chrétienne, à être avec vous tous les jours, à vous aider pleinement à vivre l'héritage qu'il vous donne. Votre vie, c'est son projet. Ah, ça sonne bien comme truc politique, ça. Je garde ça, au cas où. Votre vie, c'est son projet. Les promesses de Dieu tiennent toujours, même si vous ne faites pas tout parfaitement. Il est fidèle et votre vie, votre foi, c'est son projet. N'ayez pas peur. Deuxième chose que Dieu fait pour rassurer Josué, c'est qu'il lui dit qu'il lui donne sa loi et son esprit. Dieu donne sa loi. Je relis juste les versets 7 et 9. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Moïse est mort, mais la loi que l'Éternel a donnée au peuple par son intermédiaire est toujours la source de la vie. Josué est encouragé à obéir à la loi, c'est le verset 7 et le verset 8, et à répéter ses paroles et à la méditer jour et nuit, au verset 8. On a la double exhortation de fréquenter les Écritures régulièrement et de s'y conformer. Et cette double exhortation est encadrée, je vais vous mettre un schéma parce que je sens que vous êtes largués là, hop. Donc on a l'exhortation, d'abord la promesse « Je serai avec toi » que vous retrouvez au verset 5 et au verset 9. Puis dans les versets 6 et verset 9, vous avez ce refrain qui revient « Prends courage et tiens bon ». Dans les versets 7 et les versets 8, vous avez « D'obéir à la loi ». Et au milieu, vous avez cette phrase qui encourage Josué à méditer et à répéter ses paroles. La partie centrale insiste sur les effets de la méditation et de l'obéissance à la loi. Verset 7, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Et verset 8, tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Obéis à la loi, médite-la, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Alors attention ici à ne pas comprendre de travers. Le texte est très clair. La réussite de la conquête dépend de la présence de Dieu aux côtés de Josué. Une présence qui est assurée, qui n'est pas conditionnée par l'obéissance à la loi. Attention Josué, je suis avec toi, par contre si tu fais un pas de travers, je me casse. Et là, ça va partir en vrille. C'est pas du tout ça l'idée. Josué voit bien que le peuple s'apprête à entrer dans le pays promis, alors que dans le désert, il a passé son temps à désobéir à la loi. Donc l'obéissance à la loi n'est pas une condition, c'est un petit peu plus subtil que ça. Si Josué veut être un bon chef, si il veut prendre des décisions sages, des décisions qui réussiront, c'est-à-dire celles qui sont les décisions de Dieu, alors il doit connaître la loi et l'appliquer. C'est en fréquentant les paroles de Dieu qu'il va comprendre qui est Dieu, quel est son projet, et qu'il va prendre des décisions intelligentes, des décisions selon la volonté de Dieu, et qui donc vont être couronnées de succès. Imaginez un professeur qui dirait à sa classe en début d'année « Habillez-vous en costume et en tailleur toute l'année et vous aurez de bonnes notes. » Il n'y a aucun lien entre le fait de s'habiller bien et d'avoir des bonnes notes. On est dans la rétribution pure et dure. Faites quelque chose qui me plaît parce que j'aime pas le jean, j'aime pas les jeans. Et en échange, de manière totalement, enfin sans aucun lien avec le fait que vous êtes habillé, juste parce que moi je décide qu'il y a un lien, je vous donne des bonnes notes. C'est pas du tout ça ici. Ce serait plutôt un professeur qui dit à ses élèves en début de classe, révisez régulièrement toute l'année, travaillez sérieusement et vous aurez de bonnes notes. C'est le fait même de réviser régulièrement et de travailler qui va vous permettre d'avoir de bonnes notes. Il y a un lien entre le fait, j'espère que vous le savez, et entre le fait qu'il faut travailler et réviser et le fait de s'en sortir le jour du contrôle et du partiel. Et c'est exactement la logique ici. Médite les Écritures, soumets-y-toi, et alors tu réfléchiras correctement et tu prendras les bonnes décisions, tu prendras des décisions qui vont réussir parce qu'elles seront sages et qu'elles colleront à la volonté de Dieu. Vous voulez réussir dans la vie ? Oh, vous n'êtes pas très motivé. Vous voulez être à la hauteur ? Faites les choses comme Dieu les ferait. Faites les choses qui sont selon sa volonté parce que sa volonté se réalise toujours. Si vous faites cela, n'ayez pas peur, vous réussirez. Dieu donne sa loi, mais il donne aussi son esprit. Est-ce que là ça remarche ? Oui. Dieu donne sa loi et il donne aussi son esprit. Son esprit travaille le cœur du peuple. Le peuple est central dans ce chapitre. C'est à lui que l'Éternel donne le pays. C'est le peuple entier qui va combattre. Enfin, les hommes en âge, hein, tout du moins, mais c'est l'ensemble du peuple, pas seulement les tribus qui vont habiter en Canaan, aussi celles qui devront faire demi-tour après pour revenir de leur côté. Tout le monde participe à l'œuvre de Dieu, même ceux qui ont refusé d'habiter dans le pays promis et qui ont demandé à Moïse de rester à l'est du Jourdain. Ils doivent quand même venir faire la guerre avec les autres, et quand ce sera fini, ils rentreront à l'est. Le projet de Dieu va se faire avec la participation de Josué, mais aussi avec celle du peuple. Et on l'a déjà dit, Josué connaît le peuple. Et nous qui, si vous avez déjà lu l'Exode, vous le connaissez aussi un petit peu, ce peuple. Il était là lors de la catastrophe du veau d'or. Il a entendu le peuple se plaindre qu'il avait faim, que la manne, franchement, c'était toujours la même chose et que c'était pas très bon, qu'il ferait mieux de rentrer en Égypte, que les Cananéens étaient trop nombreux, ils étaient trop grands, ils étaient trop forts, etc., etc. Et vous l'avez sans doute remarqué à la lecture, c'est un texte très répétitif, le premier chapitre de Josué. Dans son discours, l'Éternel donne des instructions pour le peuple et des encouragements pour Josué. Ça, c'est la partie, le premier discours où Dieu parle à Josué. Puis dans les deux discours, Josué répète les instructions que Dieu lui a données. Mais l'encouragement que Dieu donne à Josué se répète aussi. Il se répète, mais cette fois-ci, dans la bouche du peuple. Je vous relis la réponse du peuple au plan de Josué pour la guerre dans les versets 16 à 18. Nous ferons tout ce que tu as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. En voilà une chose extraordinaire. Certaines phrases sont mot pour mot celles que l'Éternel avait dites à Josué. Par exemple, l'Éternel sera avec toi comme il était avec Moïse, prends courage et tiens bon. Rien n'indique, et plutôt tout indique, que le peuple n'était pas présent lorsque l'Éternel a adressé les paroles à Josué. Sinon, peut-être que Josué s'amuserait pas à leur répéter tout ce que l'Éternel a dit sur les instructions de départ. Le fait que Josué rappelle le plan aux Israélites nous montre qu'ils savent pas. Ils savent pas le plan. Le peuple n'était pas là quand l'Éternel s'est adressé à Josué, et pourtant il répète exactement les mêmes paroles à Josué que l'Éternel lui a dit. Comment comprendre cela? Parce que si l'Éternel parle au cœur de Josué, il parle aussi au cœur du peuple. Et c'est poussé par Dieu qu'il redonne les encouragements et s'engage à obéir à Josué en toutes choses. Quel soulagement pour Josué! L'Esprit de Dieu travaille dans le cœur du peuple pour qu'il l'encourage et qu'il le soutienne. Josué n'est pas seul, non seulement parce que l'Éternel est avec lui, mais parce que l'Éternel est au sein de son peuple en les faisant travailler pour son objectif. Il a Dieu avec lui et il a aussi le peuple. Quel soulagement pour nous! Nous sommes entourés de personnes dans lesquelles l'Esprit de Dieu travaille aussi. Des gens que Dieu nous donne pour nous aider à relever les défis qui nous faisaient tellement peur, dont on a parlé au début. Que Dieu nous donne pour nous aider à être à la hauteur. Nous ne sommes pas seuls, parce que c'est le même esprit qui agit en tous. Le même esprit, la même pensée et le même cœur. Il me reste 3 minutes, juste le temps de ma conclusion. Vous avez des craintes par rapport à ce qui est devant vous, par rapport à certaines choses de votre vie que vous allez devoir embrasser, peut-être juste au retour du camp. Laissez-vous rassurer par Dieu. À la fin du chapitre 1, Josué se lance dans les préparatifs de la conquête en sachant que ce n'est pas à lui d'être à la hauteur, mais que c'est Dieu qui l'élève pour qu'il puisse faire face à ce qui est devant lui. Quel est le défi qui est devant vous en ce moment? 4 choses que j'aimerais que vous gardiez pour vous aider à être à la hauteur. Oh, pas du tout. Hop, je pensais que j'avais un autre slide. La première chose, rappelez-vous que Dieu est là. Comme il a été avec tous ses serviteurs avant, comme il a été avec son serviteur et fils Jésus. Il nous aime, il nous soutient, il nous accorde sa grâce et sa justice, car nous sommes comme Jésus. C'est le sens du mot chrétien, des petits Christ, des comme Christ. Nous sommes comme Jésus. Deuxième chose, rappelez-vous aussi que si vous êtes chrétien, votre vie est devenue le projet de Dieu. Et les projets de Dieu aboutissent toujours. Troisième chose, attachez-vous à la parole de Dieu. Et si vous êtes une personne normalement constituée et que vous avez du mal à la lire, parlez-en à un chrétien que vous appréciez, que vous estimez. Elle vous donnera peut-être des trucs qui ont marché pour elle, ou elle vous aidera peut-être à lire la Bible ensemble. Laissez-nous modeler par les paroles de Dieu et nous réussirons. Et ça demande des efforts de libérer du temps et de se modeler par la parole de Dieu, mais c'est un passage obligé. Si on ne révise pas, on ne peut pas s'attendre à réussir aux examens. Je suis sûre qu'il y en a certains qui ont réussi à réussir aux examens sans... Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. D'accord? Ça marche pas comme ça. 4e chose, réjouissez-vous de voir les gens que Dieu a mis autour de vous et dans lesquels il travaille et qui peuvent être un soutien et un encouragement pour vous. Si vous avez un défi, ne vous isolez pas. Au contraire, profitez de l'aide qui vous est offerte par le peuple que Dieu a sauvé avec vous. Ce qui est vrai pour Josué est aussi vrai pour nous. Soyez rassurés. Avec Dieu, en Christ, par son esprit, à l'écoute de sa parole, au milieu de son peuple, aucun doute, vous serez à la hauteur.